Voilà deux lectures pour accompagner la prédication de Roger Sewell, notre pasteur. La première que je lirai dans Ésaïe, chapitre 35, les versets 8 à 10. À travers le pays passera une route que l'on appellera la route sainte. Aucun impur n'y passera, car elle est réservée au seul peuple de Dieu qui la suivra. Les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lions, et les bêtes féroces n'y auront pas accès. On n'en trouvera pas. C'est le peuple sauvé qui marchera sur cette voie. Oui, ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils iront à Sion avec des cris de joie. Un bonheur éternel couronnera leur tête. Ils auront en partage la joie et l'allégresse. Tristesse et plainte s'enfuiront. Amen. On saute au Nouveau Testament, dans le livre d'un Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 4 et les versets 12 à 20. Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée et que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que moi-même j'avais reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Il y a plus, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais il ne l'a pas fait s'il est vrai que les morts ne ressuscitaient pas. Car si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts, unis au Christ, sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais, en réalité, le Christ est bien revenu à la vie, et comme les premiers fruits d'une abondante moisson, il annonce la résurrection des morts.
Dernièrement, j'étais arrêté par la police. C'est pas que de temps de confession. En fait, ils distribuaient un flyer pour la prévention routière. Et avec le titre, « Conduire est une activité à plein temps ».« Conduire, une activité à plein temps ». Ça me rappelait que dans un journal chrétien, nous étions en France, il y avait une série d'articles au volant de la vie qui nous expliquait la conduite qu'on devait avoir en tant que chrétien. Et je suis rappelé de cela parce que depuis peu de temps, j'accompagne notre fille Lydie dans la conduite accompagnée. Alors, tout parent qui est passé par là savent très bien ce que ça représente. Et nous tous qui avons le permis, c'est sûr qu'on est passé par là et la conduite n'est pas chose facile. À combien de choses il faut penser en même temps? On oublie avec les années, mais au départ, qu'est-ce que c'est compliqué? Conduire à Mérin, c'est aussi plutôt compliqué. Si vous avez vu la photo de la place, il y a 51 ans de ça, et aujourd'hui, conduire à Mérin, c'est pas la même chose. Se garer à Mérin, c'est pas non plus la même chose. Depuis le mois de juin, il y a les zones bleues, il faut un macaron pour trouver un lieu si on veut pas subir quelques représailles. Sur la route de la vie, que de nouveautés quand on considère 51 ans en arrière. Que de changements dans cette période. Les choses, on peut dire, deviennent de plus en plus compliquées. Mais devant ces changements, nous avons un message qui reste le même. Paul, en écrivant à une autre église, Galates, et c'est cette phrase que j'aimerais qu'on garde à l'esprit en considérant le passage en 1 Corinthiens 15, il a dit ceci, « Si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors le Christ est mort pour rien. » C'est cette phrase-là qui m'a vraiment arrêté. Le Christ serait-il mort pour rien? Que Jésus soit mort sur la croix, pas évanoui, comme prétendent certains, ou remplacé, comme disent d'autres, que Jésus soit mort sur la croix, c'est le cœur du christianisme. Qu'il soit ressuscité d'entre les morts, c'est là la bonne nouvelle qu'on n'a pas cessé de répandre depuis le premier dimanche de Pâques à Jérusalem, Judée, aux Galates en Grèce, j'ai cité les Galates, en Grèce, Galates en Turquie, pardon, Corinthiens en Grèce, jusqu'à Genève, jusqu'à votre pays. Cette bonne nouvelle a résonné, le Christ est ressuscité, il est vivant. Et c'est ce message-là que ceux qui nous ont précédés, comme a rappelé Harry, ils ont eu le souci que ça soit annoncé. La vision d'annoncer l'évangile à Mérin. Évangéliser en se faisant toute à tous. Notre brochure des 40 ans nous l'a rappelé. Mais c'est un message qui sera contesté. Dieu considérait-il le péché grave à ce point qu'il fallait que le Christ meure? Est-ce qu'il serait en colère contre tout ce qui détruit sa création et ses créatures? Dieu est amour, oui, mais est-ce qu'on aura aussi des comptes à rendre à notre Créateur? Ou est-ce qu'il y aura d'autres chemins, d'autres voies, des alternatives? Le Christ, finalement, serait-il mort pour rien? Avant d'explorer notre texte en 1 Corinthiens 15, je reviens à mon flyer que j'ai reçu de la police. L'occupation accessoire peut être sanctionnée d'un retrait de permis. Il parlait d'être sur son natal. L'occupation accessoire peut être sanctionnée d'un retrait de permis. L'enjeu donc de conduire, de notre conduite, est important. Et encore, l'entête, beaucoup de tentations, aucune bonne raison. C'est authentique, hein, vous pouvez vérifier après. Beaucoup de tentations, aucune bonne raison. La police est catégorique. Si on n'obéit pas, on est sans excuse. Alors maintenant, j'aimerais explorer deux options qui sont là dans notre texte. Sur la route de la vie, est-ce qu'on serait aussi sans excuse? Vous avez entendu dans notre passage, si ceci, alors cela. Si c'est en obéissant quelques règles ou beaucoup de règles qu'on parvient à être déclaré juste, alors le Christ est mort pour rien. Donc la première option, c'est que la mort de Jésus était tragiquement inutile. Alors, les écoles de conduite, là en Turquie, à la Galatie, ils ont entendu un autre enseignement qui arrivait. Oui, Christ est mort, mais en soi, c'est pas tout à fait suffisant. Il y a certains rites, des pratiques qu'il faut absolument accomplir en plus. Et de plus en plus. Pour les hommes, c'est telle opération. Pour les femmes, interdit de cuisiner tel ou tel plat, oubliant les crevettes, les langoustes, et j'en passe. Et pour nous tous, il s'agit de maintenant, en plus, selon cet enseignement, observer un calendrier qui devient extrêmement compliqué. Et bientôt, en ajoutant à ceci et cela à la mort de Jésus, on arrivera à ces 600 et quelques règles que les Juifs devaient chercher à obéir. Ça, c'est les écoles de conduite dans la Turquie. Et en Grèce, le problème, là, pour les Corinthiens, le problème était ailleurs. D'accord, Jésus est mort. Il a été vu par tant de gens sur la croix. Mais vous n'allez pas essayer de me faire croire qu'il est ressuscité. Ça se fait pas. Alors, si il est resté dans le tombeau, et c'est l'argument de notre chapitre dans les Corinthiens, au chapitre 15, si il est resté dans le tombeau, alors, dit l'auteur de cette lettre, votre foi est sans objet. Verset 13. Un Dieu qui est mort ne peut pas faire grande chose pour ses adeptes. Nous sommes tous d'accord. Si cette vie donnée pour nos erreurs de conduite n'a pas fait le poids dans l'examen final, c'est la mort qui a remporté le Grand Prix. Non pas celui qui a fait un parcours sans faute. S'il est resté dans le tombeau, c'est dit au verset 18, vous êtes à jamais perdu, égaré sur la route de la vie, dans cette vie et dans l'au-delà. Il n'y a pas de deuxième permis à passer. Sauf, diront certains, bien sûr, s'il n'y a pas eu de fausse route au départ, qu'on appelle couramment la chute. Mais s'il n'y a pas eu de séparation avec Dieu au départ, alors le Christ serait mort pour rien. Parce que pas d'éloignement. Pas de réconciliation nécessaire, pas d'examen final. Et sur le chemin de notre vie, pas besoin de copilote pour prendre le volant, pas besoin, comme dit la Bible, de naître d'en haut. Christ aurait donné sa vie en vain. En se leurre, dans ce parcours sur terre, le verset 32, on n'a pas lu jusque-là, dit « Alors, comme dit le proverbe, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, si les morts ne ressuscitent pas. » On pourrait ajouter pour certains instructeurs de conduite, mais il suffit de choisir sa voie. Il suffit d'avoir une bonne conduite, pourvu qu'on soit sincère. Tous les chemins, comme on dit, mènent finalement à Rome. Mais à ce moment-là, le Christ est mort pour rien. Et cette mise par écrit du code de conduite ancien et nouveau, si ça ne fait pas autorité, parce que nous avons lu, le Christ est mort selon les Écritures, ça avait été annoncé d'avance. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Mais si cette parole dit faux, par extension, si l'Écriture n'est pas vraie, alors le Christ serait mort inutilement parce que ceux qui l'ont annoncé se seraient trompés. Le Christ serait-il mort pour rien? Heureusement, on n'a pas arrêté notre lecture là, parce qu'au verset 20, nous avons lu « Mais maintenant !» Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Mais maintenant. Mais en réalité, c'est notre deuxième option. Soit il n'est pas mort sur la croix, ou il est mort sur la croix et il est ressuscité. Il annonce une moisson et beaucoup plus. Parce qu'en réalité, la valeur devant Dieu le Père de la vie donnée de son Fils Jésus est inestimable. La somme payée par Jésus à la croix, sa vie donnée, couvre la somme de toutes les amendes passées, présentes, à venir. C'est une très bonne nouvelle pour tout conducteur. Le Christ n'est pas mort pour rien. Nous ne sommes plus sous le poids de nos péchés. Les infractions ont un prix, mais il a été payé en totalité. Loin d'être mort, nous avons un instructeur à consulter à tout moment qui est vivant. La mort a été dépouillée. En réalité, maintenant, le Christ est ressuscité. Le Saint-Esprit est donné. L'examen final n'est pas en question parce que Jésus est à la fois instructeur et examinateur. Et il nous a fait connaître le résultat déjà. Celui qui écoute mes instructions, ma parole, et qui croit en celui qui m'a envoyé, ne vient pas en jugement. Passer de la vie, de la mort à la vie. Autrement dit, on allait tout droit dans le mur, mais il nous a fait dévier sur la voie pour tous ceux et celles qui se reconnaissent en détresse. On a eu une prise de conscience qu'on était sur une voie sans issue et on a fait appel au ressuscité. Au lieu d'être, comme on a lu au verset 18, à jamais perdu, nous sommes éternellement en sécurité. Les deux premiers versets l'ont dit, hein. C'est cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée, que nous avons reçue. Nous demeurons attachés à cette nouvelle et c'est par elle que nous sommes sauvés. En sécurité pour notre parcours sur terre et notre déplacement dans l'au-delà. Loin d'être les plus malheureux de tous les hommes, nous sommes donc les plus heureux de tous les hommes. Demain, nous mourrons. La vie n'est pas que manger et boire. Non, demain, nous avons l'éternité devant nous qui nous attend, dans laquelle nous sommes déjà entrés, et nous vivrons dans tous les sens du terme. Un bonheur éternel couronnera leur tête. Ils auront en partage, c'est une autre lecture en Ésaïe 35, ils auront en partage la joie et l'allégresse. Fini la tristesse et les plaintes. Nous croyons que Jésus est mort et ressuscité selon les Écritures. Nous croyons que la Bible dit vrai. Nous ne rejetons pas la grâce de Dieu. Nous l'accueillons, les bras ouverts, le cœur rempli de reconnaissance. Il est mort pour moi. C'était le grand tournant de ma vie. Le Christ n'est pas mort en vain. En conclusion, un événement relativement récent, les Jeux Olympiques à Londres. Pour ne pas être pris dans les embouteillages, ceux qui sont passés par Londres savent que ça peut être un problème. Il y avait une sorte de voie royale, une voie ouverte qui permettait à tous ceux, celles et ceux qui étaient autorisés d'y monter pour arriver à destination avant la fermeture des portes. Les routes de Meyrin sont sans doute moins encombrées, mais quand le grand jour arrive où on se gare définitivement pour notre départ en haut, ce n'est pas un macaron acheté ou des points accumulés qui vont suffire. Sur la route de la vie, c'est Jésus seul, de par sa mort et sa résurrection, qui donne accès à la voie royale. Une route passera. On l'appellera la route sainte. Elle est réservée au seul peuple de Dieu. C'est le peuple sauvé qui marchera sur cette voie. Oui, ceux que l'Éternel aura libérés. Et ils iront à la cité céleste avec des cris de joie. L'autorisation de monter cette voie, mais il est donné gratuitement. Il suffit de faire demi-tour, lui demander cette immense faveur d'être au bénéfice de son pardon, repartir sur cette nouvelle voie, mettant toute notre confiance en lui. Nos communautés sont attachées à cette bonne nouvelle. Il y a les affirmations à l'arrivée à Meyrin qui le disent très clairement. Nous voulons nous encourager mutuellement à une plus grande fidélité en Christ et pour l'Évangile afin d'être son Église en faveur de cette population ambiante. Et s'ajoute « afin que le monde croit ». Aujourd'hui encore, nous affirmons ensemble que de ces bientôt 150 nationalités sur la commune, Dieu continue à appeler à lui des gens de toute tribu, de toute langue, de toute culture. Le Christ n'est pas mort pour rien. L'investissement de nos aînés n'a pas été en vain. Le nôtre ne le sera pas non plus. Et c'est ainsi, effectivement, que Paul termine le chapitre que nous avons regardé. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Nous poursuivons donc avec confiance la voie qui nous est proposée. Bonne route avec notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Je vous propose deux lectures pour la Sainte Cène. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. L'apôtre Paul écrit ceci: « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, de la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Toutes les fois que vous buviez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous en buviez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et puis, une deuxième lecture qui se trouve dans le livre de Lamentations de Jérémie, Jérémie 3, à partir du verset 22. Il dit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Alléluia. L'apôtre Paul écrit qu'il a reçu du Seigneur. Et ça, c'est très intéressant de savoir qu'on peut recevoir quelque chose de Dieu. Le plus souvent, on pense que Dieu est tellement loin que quand on parle, il ne nous entend pas. Mais l'apôtre écrit là pour dire que ce qu'il enseigne, il a reçu du Seigneur. Et l'apôtre Paul n'est pas spécial, c'est un être comme tout autre, comme nous autres. Donc nous pouvons aussi recevoir de la part du Seigneur. On peut recevoir sa parole, on peut recevoir son enseignement, on peut recevoir son amitié, on peut recevoir que Dieu nous aime. Ce que j'aimerais aussi vous communiquer, que Dieu vous aime. Le Dieu qui a créé toutes choses, ce Dieu-là vous aime. Il a un amour particulier pour vous. Peut-être vous faire participer, dites à votre voisin que Dieu t'aime. Le plus souvent, quand on passe des fois par des temps difficiles, on oublie qu'il y a un Dieu qui nous aime et il y a un Dieu qui prend soin de nous. Et Dieu vous aime tellement qu'il a préparé comme cette table pour vous. J'ai vu qu'on n'invite pas à sa table celui qu'on n'aime pas. On invite celui qu'on aime, celui qu'on est même proche. Donc Dieu nous invite à sa table parce que nous sommes proches de lui et parce qu'il nous aime. Jérémie se lamentait de sa situation, les temps qu'il passait, des difficultés qu'il vivait, mais il a compris que Dieu n'exauce pas les lamentations. Dieu n'exauce pas nos plaintes. Dieu exauce quand on s'adresse à lui. Et voilà pourquoi il dit, voilà ce que je veux faire et passer dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent. J'aimerais vous dire ce matin que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Même si vous passez par des temps difficiles que vous ne comprenez pas, mais sachez que l'amour de Dieu n'a pas changé. Et ce matin, ce Dieu vivant, il tend sa main vers vous, pour vous témoigner de son amour, pour vous témoigner de sa grâce, pour dire qu'il vous aime, qu'il a un plan pour vous, il a un avenir pour vous. Les hommes n'ont pas toujours la solution de ce que nous vivions, de ce que nous cherchions. Des fois même, quand tu vas à l'hôpital que tu souffres, le médecin vient et puis dit, écoute, on n'a pas de solution. Cette maladie, on ne peut pas le soigner. Et ils sont tout à fait désemparés. Et toi, tu sors vraiment découragé. Tu te poses mille fois des questions. Comment va être ton lendemain? Ce matin, j'aimerais te dire que Jésus est mort pour cela. Pour que tu puisses avoir la vie. Pour avoir la vie, pour que tu puisses avoir la paix. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. La Bible dit que chaque fois que nous prenons la Sainte Cène, nous annonçons la mort de Jésus. On annonce que aussi que Jésus est venu sur cette terre. Quand on lit la Bible, on voit tout ce qu'il a vécu avec les apôtres. On annonce aussi, s'il est mort, qu'il va aussi revenir parce qu'il nous aime. Alléluia. Quand on aime quelqu'un, on n'abandonne pas. On prend ses nouvelles. Jésus viendra pour nous prendre avec lui, pour nous conduire à lui, parce qu'il nous aime. Les policiers ont reçu l'ordre de pouvoir régler la circulation, et c'est ce qu'ils font. Mais Dieu nous donne la force de pouvoir avoir une relation avec lui, parce que lui, il nous aime. Il a un plan pour notre vie. Donc ce matin, en vous approchant de la table du Seigneur, que vous puissiez faire repasser cela dans votre cœur, que vous êtes les bien-aimés de Dieu. Si vous étiez la seule personne sur la terre, Jésus serait quand même venu mourir pour vos péchés. Alléluia. À cause de l'amour de Dieu pour vous. Que Dieu vous bénisse.
Je vous invite à prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce pain. Nous te rendons grâce pour cette coupe, signe de ton amour. Seigneur, je ne veux pas prier pour que nos estomacs s'ouvrent en mangeant de ce pain et de ce vin. Nous voulons te prier pour que nos cœurs s'ouvrent et que nous puissions être renouvelés, touchés tout à nouveau par ton amour pour chacun d'entre nous individuellement. Seigneur, renouvelle notre foi, nourris notre foi afin que nous puissions persévérer dans cette foi, persévérer dans ce à quoi tu nous appelles. Et nous te rendons grâce aussi parce qu'en partageant ce pain et ce vin, en le prenant ensemble ce matin, nous voulons aussi manifester notre alliance, cette alliance que tu as faite avec nous, cette alliance que nous avons entre nous parce que c'est toi qui nous unis. Et nous t'en bénissons. Rends-nous dignes de ton amour, rends-nous dignes de cette alliance. Nous voulons être transformés par toi de jour en jour. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Voilà, j'aimerais inviter les personnes à me rejoindre pour la distribution de la scène. Vous trouverez au centre des plateaux du jus de raisin et sur le pourtour du vin. Il y a aussi une coupe de vin, si vous la souhaitez. Vous me faites signe et je viendrai vous l'apporter. Je vous invite à demeurer dans cette présence de Dieu. Et si vous avez à cœur de partager une prière, une pensée, n'hésitez pas à le faire.
Thank you.
Pour conclure ce temps de scène, j'aimerais faire écho à un appel à la prière du réseau évangélique suisse, qui, pour ce temps de jeûne fédéral, puisque nous sommes le week-end du jeûne fédéral, nous sommes invités à prier pour les réfugiés. Il nous est écrit que cette année, nous recevons pratiquement tous les jours des nouvelles effrayantes de réfugiés. À travers le monde, il y en a plus de 50 millions et plusieurs milliers d'entre eux viennent chaque année en Suisse. Le réseau évangélique suisse appelle les chrétiens à prier pour les réfugiés, particulièrement en ce temps de jeûne fédéral. Alors voilà, nous voulons faire écho à cet appel et je vous invite à prier. Merci Père, parce que tu nous rappelles encore ce matin combien nous pouvons compter sur toi. Au travers de ce pain et de ce vin que nous avons pris, tu nous rassasies, tu nous combles. Ce n'est pas toujours évident dans les difficultés que l'un ou l'autre d'entre nous vivons, mais cela est suffisant pour cette joie et cette paix que tu nous as promis, quelles que soient les circonstances. Et nous te prions de nous renouveler dans cette foi afin de nous attendre à toi. Et nous te prions pour tous ceux et celles qui, encore bien plus que nous sans doute, sont dans la misère, manquent de tout. Nous pensons à tous ces réfugiés de par le monde qui fuient des situations de crise, des situations de guerre, des situations de précarité terribles. Nous te prions afin qu'ils puissent, là où ils sont, là où ils se trouvent, trouver un peu de réconfort, trouver un peu de chaleur humaine, trouver aussi du nécessaire pour survivre jour après jour, et surtout trouver une espérance pour la suite de leur vie. Nous te prions pour tout ton peuple qui se trouve au milieu de ces réfugiés, afin qu'ils puissent au moins partager, c'est vrai, tant que cela est possible, cette espérance que nous pouvons mettre en toi. Le chemin de la vie n'est pas facile pour tout le monde, mais Seigneur, avec toi, nous pouvons le parcourir jusqu'au bout, dans cette paix que tu nous donnes, et c'est ce que nous appelons. Permets-nous, Seigneur, de ne pas fermer les yeux sur la misère de ce monde avec tout ce que tu nous donnes ici en Suisse, mais que nous puissions ouvrir grand nos mains, nos cœurs, nos bras pour donner ce que nous avons, même si ce peu que nous avons, c'est cette foi et cette espérance en toi. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous voulons encore donner la parole à quelques personnes. J'invite peut-être Maurice à me rejoindre, qui souhaite nous dire quelques mots par rapport à notre collaboration aussi avec la paroisse protestante. Mais juste avant, j'aimerais vous lire une lettre que nous avons reçue de Liliane et Jean-Jacques Mélan, qui ont été pasteurs plusieurs années ici à l'église évangélique de Meyrin. Ils ont été invités, ils ne sont pas parmi nous, et ils nous écrivent ceci. Bien chers amis et amis, nous avons bien reçu votre invitation à vous rejoindre pour les festivités du 50+1. Bravo à vous tous pour cette magnifique initiative, bravo à la présidente pour toute sa peine, bravo aux jeunes pour leur créativité et à leur engagement. Vous êtes vraiment génial. Vous pensez bien que si nous avions été libres de nos choix, nous vous aurions rejoints pour les deux jours. Malheureusement, nous sommes engagés dans un autre projet. Lundi prochain, 15 septembre, nous nous envolons pour un pèlerinage chrétien en Arménie. Puis du 26 au 30 septembre, nous visiterons des amis à Beyrouth, au Liban. Aussi, nous regrettons vivement de ne pas pouvoir être des vôtres. Nous vous souhaitons des journées de fête pleines de convivialité, nourries du plaisir de témoigner des richesses qui habitent votre Église et ainsi de rayonner de la joie de l'Évangile. Merci de faire une place dans vos prières en faveur des chrétiens en danger au Proche-Orient. Vous avez peut-être lu l'appel que le Conseil suprême de la communauté évangélique en Syrie et au Liban a adressé aux églises d'Occident. Il nous renvoie sur le site internet de l'AFRE, notre fédération d'églises, où vous pourrez sans doute retrouver cet appel. Nous visiterons quelques-unes de ces communautés. Avec émotion et tristesse, nous leur apporterons un modeste témoignage de solidarité. Merci de penser à nous. Recevez, bien chers amis et amis, nos plus chaleureux messages, Jean-Jacques et Liliane. Voilà. Merci Maurice.
Merci de nous accueillir et de nous donner la parole. J'aimerais, au nom de tous les nombreux collègues réformés qui m'ont précédé dans ces liens amérins, vous remercier de votre ténacité, de votre persévérance, de votre ouverture. C'est pas évident pour tout le monde d'être ouvert. Je partageais hier encore avec Michel Cretny et son épouse, avec Armand Heiniger, nous visitions l'exposition, les photos, l'histoire de votre communauté. Et Michel me disait, moi je n'ai rejoint que 7 ans après le début de la communauté, parce que pour mon père, il fallait rester dans la ferme, c'était pas évident d'aller vers cette communauté de la cité. Mais peu à peu, il a évolué. Il a reconnu que ce lieu était béni et il a pleinement adhéré. Mais je crois qu'il y a là un message pour nous, c'est-à-dire que le changement n'est pas évident à vivre. Et je comprends, même si je me suis réjoui de l'ouverture au début, que pour tout le monde, ce n'est pas évident de travailler avec les catholiques, avec les autres communautés. Pourtant, ce que vient de nous dire Harry nous le rappelle. Ce qui se passe pour les chrétiens d'Orient nous rappelle la gravité. Nous avons un seul message, il est chrétien. L'écuménisme était au début de notre histoire chrétienne. Nous avons à le vivre. Alors, je comprends tout à fait les freins, les réserves, mais votre force, votre bénédiction sera dans l'ouverture et dans l'établissement de liens. Nous étions avec Jacques Krebs, avec mon collègue... Roger Sewell, chez nos amis coptes, quand le pape est venu. Nous avons découvert une communauté avec de jeunes enfants, une communauté vivante, joyeuse, ici au sein de Mérin, et il n'y a pas de doute, même si la célébration a duré 3 heures et que c'est très long, moi je ferai plus court. On a vécu quelque chose d'authentique, de fort. Et alors voilà, Dieu a béni Mérin, je ne sais pas pourquoi, mais force est de constater qu'on peut répondre. Tu peux te lever, Roger. Qu'est-ce que vous lisez derrière le t-shirt de... Voilà, il nous pose une question. Sommes-nous comblés? Eh bien, je crois que votre communauté est comblée depuis des années à cause de sa fidélité, de son engagement. C'est une joie et puis c'est aussi une force pour nous dans des ministères qui sont... peut-être moins nombreux, moins stimulants, de savoir que nous participons à une réalité qui existe ici, à Mérin. Alors, je terminerai par 2 invitations. Persévérez dans l'ouverture aux autres communautés. Soyez des rassembleurs. Et puis, la deuxième, les enfants. C'est une préoccupation que j'ai. Ils sont plus... Les listes des enfants protestants ou chrétiens ne sont plus transmises par le DIP. Ils échappent de plus en plus à nos catéchismes. Ils sont de moins nombreux dans les catéchismes. Et je me pose la question, qui va leur transmettre? D'accord. Et j'aimerais que nous portions ces 2 sujets dans la prière. Fraternellement, merci à tous.
Merci Maurice pour ces mots d'encouragement. Nous voulons effectivement faire nôtre ces mots, les transformer en prière pour la suite de ces 50 prochaines années. Nous voulons vivre un temps de prière et j'aimerais inviter Armand Heiniger, Charles Abel-Pieguet, Joël Dupertuis à me rejoindre. Nous leur avons demandé de pouvoir prier pour cette communauté. À eux trois, ils représentent aussi toute l'histoire de l'Église avec tout un service au sein de l'Église. Merci pour votre engagement passé, présent et futur. Et nous leur avons demandé de bénir et de prier pour cette communauté. Alors on va prendre ce micro peut-être.
Seigneur, dans ta parole, à l'époque d'Israël, tu rappelais à ce peuple de se souvenir du chemin parcouru. Et pour nous, ces journées sont l'occasion aussi de nous souvenir du chemin parcouru pour rappeler ta fidélité Et nous voulons te rendre grâce pour ce chemin parcouru. Te rendre grâce aussi parce que tu as accepté nos faiblesses, parfois nos faillites. Se rappeler du chemin parcouru, c'est aussi se projeter pour l'avenir. C'est une promesse certaine que tu seras avec nous dans les années qui sont devant nous, pour cette communauté, pour les communautés de Mérin. Et c'est aussi l'occasion de présenter dans la prière et dans l'amitié tous ceux qui essayent de témoigner de Jésus-Christ dans cette cité. Nous te louons, Seigneur, pour ce chemin parcouru et nous te remettons le chemin à parcourir dans l'avenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Seigneur, je crois que nous pouvons bien redire cette louange que David t'adressait. Et elle correspond bien, Seigneur, à toute la reconnaissance qui est dans nos cœurs au cours de ces journées. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai. Je louerai ton nom à tout jamais. Le Seigneur est grand, comblé de louanges. Sa grandeur est insondable. D'une génération à l'autre, on vantera tes œuvres, on proclamera tes prouesses. Je répéterai le récit de tes miracles, la gloire éclatante de sa splendeur. On dira la puissance de tes prodiges, et je raconterai tes hauts faits. On célébrera le souvenir de tes immenses bienfaits, on acclamera ta justice. Le Seigneur est bienveillant et miséricordieux, lent à la colère et d'une grande fidélité. Le Seigneur est bon pour tous, et je dirais pour nous tous, plein de tendresse pour toutes ses œuvres. Toutes ensemble, tes œuvres te loueront, Seigneur, et tes fidèles te béniront. Ils diront ta gloire, la gloire de ton règne, et parleront de ta prouesse, en révélant aux hommes tes prouesses et la gloire éclatante de ton règne. Ton règne est un règne de tous les temps, de ton empire, et ton empire dure à travers tous les âges. Dieu est véridique, fidèle en tous ses actes. Le Seigneur est l'appui de tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui fléchissent. Les yeux sur toi, ils espèrent tous, et tu leur donnes la nourriture en temps voulu. Alors Seigneur, nous disons cela aussi, nous faisons nôtre cette prière aujourd'hui, et après ces plus de 50 ans, et ce regard en arrière, oui, nous voulons maintenant que ce soit un regard d'aujourd'hui, mais nous voulons nous projeter aussi en avant, et compter sur les forces que tu nous donneras, que tu donneras à la génération suivante, Seigneur, et que ce que tu as déjà fait, et pour tout cela, nous te bénissons en Jésus-Christ. Amen.
Amen. Seigneur, merci pour la communauté que tu nous donnes et pour l'enracinement qu'on peut avoir en ta parole. Et merci parce qu'à l'image de l'arbre et de ses racines, de cet enracinement, tu nous permets d'avoir un tronc et d'avoir des branches. Et merci parce que, à l'image de cette fête de hier soir, ces 50 ans qui représentent aussi ce qu'on a vécu toutes ces années en communauté, depuis l'arrivée ici à Mérin, ces branches partent vers l'extérieur. Merci pour tous ceux qui sont engagés de manière importante pour certains ou qui ont participé plus simplement pour que ces branches partent vers l'extérieur et puissent rejoindre nos voisins ici à Mérin, un peu plus loin, nos connaissances, nos amis de l'Église aussi. Et Seigneur, que ces choses qui ont été apportées à l'extérieur, elles puissent porter du fruit, nous t'en prions Seigneur ensemble. Qu'on puisse continuer à être des témoins et à apporter quelque chose à nos voisins ici à Mérin et
plus loin au travers des autres communautés avec lesquelles nous partageons. Amen.
Amen.
Amen. Merci. Merci d'avoir été nos porte-parole dans cette prière de reconnaissance et d'intercession pour la suite.
Voilà, nous arrivons vers la fin de notre culte. Nous avions quand même et encore à cœur de vivre le temps d'offrande. J'invite les groupes louanges à me rejoindre. Ce temps d'offrande est une manière aussi pour nous de nous impliquer et de rendre grâce pour la générosité de Dieu envers nous, envers nos communautés. Cette offrande est bien sûr libre. Vous êtes tout à fait libre d'y participer ou de ne pas y participer. Je vous remercie. Je vous invite à vous lever. Je ne sais pas si nous avons les chants. Voilà. Comme ça, on peut vous accompagner. Merci.
Comme ça, vous allez pouvoir chanter avec nous. Alors, on nous a dit ce matin que Christ n'est pas mort en vain, n'est pas mort pour rien. Et parce qu'il vit, eh bien, nous n'avons rien à craindre et nos lendemains sont assurés.
Merci Seigneur, nous te bénissons pour la joie aussi que nous avons à pouvoir partager ce que nous avons. Nous te remettons cette offrande afin qu'elle puisse servir à l'avancement de ton règne, afin que tous ceux et celles qui pourront bénéficier soient renouvelés dans leur ministère. Nous sommes reconnaissants pour ta générosité parce que tu es celui qui pourvoit en tout temps dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à reprendre place. C'est le temps des annonces. Je vais laisser Roger. Quelqu'un nous a suggéré de pouvoir prendre une photo de l'assemblée. Si ça ne pose pas de difficultés particulières, il faut encore juste trouver l'appareil photo. Est-ce que quelqu'un a un appareil photo? Est-ce que quelqu'un pourrait prendre une photo? Voilà, je laisse ça à votre réflexion si quelqu'un avait éventuellement. Merci.
Merci. Alors, je vous propose de regarder les annonces. Excusez-moi. Voilà, mardi, ça concerne le groupe qui se prépare au baptême et je vous encourage à noter la date des baptêmes, le 23 novembre. Donc, date qui sera dans le prochain mémo, bien sûr. Notre caté, groupe caté reprend ce vendredi qui vient. Donc, rappel pour les parents, à 19h comme d'habitude. Je rappelle pour tout le monde la mission Portes Ouvertes qui œuvre en faveur de nos frères et sœurs persécutés. Ils ont leur journée annuelle à Yverdon. Si vous désirez y aller, vous pouvez me le signaler. Donc, c'est à 15h à Yverdon. Fil d'argent, exceptionnellement, la rencontre est le mercredi 8 octobre, avec une invitée qui a été longtemps au Sénégal. Après le culte, donc voilà, nous sommes tous invités. Je ne sais pas s'il y a des restes hier soir, mais voilà. En tout cas, il y a du thé, peut-être du café aussi. Du café à boire, prolongeant ce moment que nous vivons ensemble. Alors, j'aimerais aussi inviter notre équipe, Rebecca Perrin, qui est Manon Muller, Aurélie Jeune-Camp, juste de venir devant. Donc voilà la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant de votre temps?
Dodo.
Dodo, voilà. Voilà. Alors, le but, c'est de vraiment vous dire un grand merci. Vous avez compris. Elles ont assumé notre fête, pas toutes seules, heureusement. Donc, c'est une manière aussi de dire le merci à chacun de tout ce que, de votre disponibilité, de votre engagement qui a fait que la fête était belle. Oui. Je ne sais pas si vous voulez nous dire quelque chose.
Ben, en tout cas, on a passé une très belle journée hier. Il faisait grand beau alors que ils annonçaient un peu de pluie, donc ouais, c'était vraiment génial. Toute la préparation le matin, c'est super bien passé. Merci à tous ceux qui étaient là. Et puis la parade, c'était vraiment chouette. Enfin, il y avait plein de monde, la bonne ambiance et puis du monde aussi, la raclette, les crêpes, ça n'arrêtait pas. Donc, que du positif.
Ouais. Ben, merci en tout cas à tous ceux qui se sont investis. C'était une aide précieuse pour que cette fête puisse se réaliser. Donc, merci beaucoup.
Moi, je voulais juste partager quelque chose. En fait, on cherchait des gens pour faire la parade. On cherchait 50 personnes. Au début, on se disait, c'est facile, c'est juste pour faire des vélos. Et puis, en fait, on a vu que la liste, elle avait du mal à se remplir. Puis, on en discutait, on était là, on va être 10 à la parade. Au final, ça va même pas être une parade, on va même pas enfin, être vu. Puis, en fait, on a décidé d'aller voir les gens, puis d'aller dire, vous voulez pas faire la parade? Parce que, bon, si on attend que les gens remplissent les listes, on a vu que c'est pas très efficace. Et en fait, en allant vers les gens, vers tous les gens, après chaque culte, ben, on voyait que tout le monde participait à quelque chose. Tout le monde était déjà occupé à un stand, à un poste, à faire la cuisine, à manger. Enfin, voilà. Et du coup, en fait, on a remarqué que tout le monde était impliqué. Et c'était, enfin, voir que toute la machine, enfin, c'était vraiment impressionnant. Et du coup, on s'est senti soutenu et enfin, ça valait vraiment le coup. Et puis, merci à vous. Encore une fois, ça fait 3 fois parce que c'est un gros, gros merci. Il nous reste juste 3 objets trouvés, 2 trousseaux de clés et une petite gourmette, ou enfin, un petit bracelet. Alors, si vous avez trouvé des clés, si vous avez perdu vos clés, venez vers moi et sinon on les donnera à la police municipale. Et juste avant l'apéro, si vous pouvez juste sortir pour nous aider à ranger les tables et les bancs et ensuite revenir pour boire un verre, c'est volontiers. Merci.
Et ça ne concerne pas nos invités. Hein. Allez, merci. Le beau temps a peut-être pénalisé les événements à l'intérieur. C'était tellement agréable d'être dehors. Mais les photos sont déjà toujours postées en bas. Donc, je vous recommande, après avoir rangé les tables, de descendre au sous-sol et voir l'histoire de notre église. Un verre à la main.